tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Je vais me faire passer pour un jardinier, j'entrerai dans la basse-cour et là, je pourrai me ravitailler.
Pardon, monsieur, que faites-vous chez nous?
Comment? Vous n'êtes pas au courant?
Non, au courant de quoi?
Mais je suis chargé par la fermière de planter des fleurs dans votre basse-cour.
Oh, quel bonheur! Des fleurs, je les adore!
Moi, je préfère les pommes de terre.
Et quelles fleurs allez-vous planter?
Diable, je n'y connais rien. Que vais-je leur dire?
Vous avez reconnu la jeune truie, Éloi Sidonie?
Ben, je me souvenais plus du tout de la jeune truie.
Ah, c'est Aglaé.
Aglaé et Éloi? Non, je me souvenais que du renard.
Croque-tout.
Croque-tout. Ah ben, merci de me le rappeler. Non, ce dont je me souviens avec mon frère, mon jeune frère, c'est de l'effroi qu'on avait d'entendre sa voix. Voilà, ça c'était mes premières peurs télévisuelles, c'était le renard croque-tout, le menteur perfide et séducteur renard. J'avais raison d'avoir peur.
Est-ce que vous pouvez dessiner la chambre de votre enfance, Anne Brochet, de façon schématique, avec quelques objets, j'imagine, un ou deux posters?
Alors, j'ai eu plein d'enfances.
Et elles peuvent se superposer?
Plein, faut pas exagérer, j'en ai eu trois. J'avais un lilas tout petit, là il y avait les affaires de mon lapin, c'était un truc de bébé quoi, mais bon, j'ai allongé le lapin dessus. Et dedans l'armoire, il y avait les Barbies, le monde des Barbies sur deux étages.
Ça c'est la première enfance?
Non, la première enfance, c'est une chambre très petite, et je suis petite parce que c'est un an, et devant moi il y a une girafe pour mesurer les enfants. Et là je suis là. Je dors sur ce lit, je me souviens juste de la girafe.
Et ça, déjà c'est... des animaux qui vous poursuivent.
Oui.
Un lapin, une girafe.
Voilà, oui, je suis déjà dans le monde animal. Et donc là, il y avait, par la fenêtre, il y avait un merle qui sifflait le soir, et nous avions tous les soirs un rendez-vous. Je chantais avec lui le chant du merle, et je ne m'en lassais pas.
Ça ressemblait à quoi?
Alors ça fait... chose comme ça.
Et la dernière enfance?
Je suis donc dans une autre maison, j'ai 14 ans, et là c'est comme ça, il y a toujours une fenêtre, mais là je parle plus aux oiseaux. À ce moment-là j'avais vu l'exorciste, donc il fallait vraiment que je cache tout ce qui se passait sous mon lit, il fallait vraiment que je blinde à fond la chambre.
Il n'y a pas de poster?
Si, ici, là, il commence à y avoir un peu des photos de Robert De Niro. Et ici, une affiche, je pense que j'étais influencée par ma mère à ce moment-là, une affiche de Gérard Philippe, avec le diable au corps, la photo du diable au corps. Et donc, il est dans un imperméable, et il reçoit de la pluie sur le visage, et il est désespéré, et très très beau. Et à mon lit, donc pour me protéger de l'exorciste, il y a la photo d'Isabelle Adjani dans Adèle H, et j'ai transformé le nom Isabelle Adjani en Anne Brochet. Ouais, j'ai carrément osé. Ouais, avec un feutre noir, je l'ai viré et j'ai mis mon nom à la place.
On peut rappeler le merle pour commencer l'émission?
Brochet. Et le bro et le chez, il vient tout de suite à côté.
À côté du bro?
Oui, absolument.
Brochet.
Voilà.
La vibration du bro me remonte jusqu'aux molaires.
D'accord.
Bon, là, c'est là. Bon,
oui, ici. Oui, c'est ici que j'ai mal.
D'accord.
Et le chai est sec. Je peux même dire que le chai me fait mal sous le palais.
J'ai mal aux deux syllabes.
Est-ce que vous faites des massages tous les jours un petit peu pour vous décontracter?
Ah non, j'ai même pas jamais pensé.
Bah c'est une pensée de faire des massages.
Mais tout en disant Anne Brochet ou
oui,
sans dire.
Sans le dire et en le disant aussi.
Brochet Anne.
L'exil peut commencer vers 14 ans, sans s'annoncer, sans faire de bruit. La vie heureuse peut être stoppée par la vente d'une maison. Alors, l'exil commence, on cherche à nouveau chez soi, on cherche la maison, et ça peut durer toute une vie. Anne Brochet a grandi sur les bords de l'Oise, dans le moulin du grand-père René. C'était une maison en briques, ce genre de maison où il y a celle qu'on appelle la chambre du piano, là où la petite Anne regardait des téléfilms macabres le samedi soir pour se faire peur. Ce genre de maison où on a pu déposer un peu partout ses sentiments. Comme ça, ils ont un endroit, on peut les poser, s'en délester, les retrouver. Ce genre de maison où seuls ceux qui y habitent savent comment s'appellent les pièces. Il y a par exemple la chambre verte. Ce genre de maison où on a déposé notre univers mental et donc on pense que c'est pour toujours. Cet endroit où la lumière ne nous réveille pas. Anne Brochet écrit dans son roman « Le grain amer » C'est dans cette chambre que je me reconstituais vraiment. Je dormais si profondément qu'au réveil, je ne savais plus rien du monde, ni de moi-même, et que je recomposais avec délice tous les éléments majeurs de ma courte vie. Anne Brochet a gardé la maison vivante. C'est comme si une réalité parallèle continuait d'exister. Elle dit « Je vis parce que mon imagination croit que les scènes sont encore possibles ». Un jour, elle revient et raconte l'histoire du mur qui les séparait des voisins. Anne Brochet cherche à quoi elle ressemble dans le monde. Elle rêverait de pouvoir s'observer au présent, à défaut elle le fait en différé. En amoureuse et conduite, elle retraverse tous les lieux d'un amour. Elle s'adresse toujours aux traces, à la vie dans les lieux et dans les choses. Qu'est-ce qu'on dépose dans une maison? Qu'est-ce qu'on dépose dans un nom? Elle a réalisé le documentaire « Anne Brochet comme le poisson ». Elle s'est rendue compte qu'elle disait son nom de poisson 5 fois par jour depuis 25 ans, que l'école l'avait obligée à répondre présente à Brochet 6 fois par jour pendant 15 ans, soit 78 500 brochets prononcés. Anne Brochet superpose sans cesse sa vie présente et sa réalité fictionnelle. Elle ne serait pas étonnée si quelqu'un de disparu soudain la rappelait. Elle se sent mi-passé, mi-présent, mi-femme, mi-animal. Anne Brochet est un personnage de roman, en exil depuis 14 ans, qui aime, comme le brochet, changer de robe, de couleur et se camoufler. Il y aura donc Anne Brochet, actrice, écrivain, née en 1966 à Amiens, qui a grandi dans la maison de ses grands-parents à Moulins, qui voulait devenir actrice dès 16 ans, qui, très jeune, a été Roxane dans le Cyrano de Jean-Paul Rapneau, qui a eu un César pour Tous les matins du monde d'Alain Carnot en 92, qui a joué une quarantaine de rôles, écrit 5 livres. Le dernier s'appelle Le grain amer, il est sorti aux éditions du Seuil. Il y aura en studio son ami l'écrivain Abdella Taïa. À la musique, ce sera Mesparo. Et on reste avec les animaux parce que si on traduit, ça fait Mademoiselle Moineau, pour son nouvel album qui s'appelle Jungle Contemporaine. C'est une vie d'artiste sur France Culture et ça commence par la voix de Claude Chabrol, nous sommes en 1986.
Un des plaisirs de ce métier, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un rôle où on ne sait pas trop comment le distribuer. Alors on a une solution et puis cette solution ne marche pas finalement. Alors on se dit, on va prendre une inconnue. Alors, on voit des gens et on finit par... La seule chose qu'on puisse faire, décemment, si on veut pas faire des essais comme qui sont des bêtises, bien entendu, ou des choses comme ça, c'est de prendre quelqu'un qui physiquement correspond à ce que vous avez pensé pour le personnage. Et puis, on croise les doigts en espérant qu'elle sera pas mauvaise ou même bonne, enfin de toute façon qu'elle foudra pas le film en l'air. Et puis c'est mieux que ça, on est complètement surpris et content et subjugué. Alors c'est pour ça, ça me ferait bien plaisir qu'elle... En plus je crois qu'elle rentre au conservatoire chez Bouquet justement, Alors ça va créer une espèce d'harmonie de propos tout à fait sympathique.
On peut déjà dire son nom complet ?
Elle s'appelle Anne Brochet. Mais elle n'aime pas son nom de Brochet. Je comprends ça parce que... Enfin, vaut mieux s'appeler Brochet Croquin. Mais enfin,
Anne Brochet, vous avez quel âge ?
J'ai 19 ans.
Alors racontez un petit peu comment ça se passe un tournage avec Chabrol.
L'avant, on s'est vu pas très longtemps puisque c'était presque au début du film. On s'est vu une semaine et demie avant le tournage. Donc comme il était en pleine préparation, je l'ai vu le jour où je l'ai rencontré. Et puis le jour où on a parlé ensemble un peu du personnage.
Je vous ai vu tourner avec Noiret. Ça avait l'air sympa. C'est bien de tourner avec Noiret ?
Oui.
Ça aide ?
Oui. J'étais contente. J'étais troublée pendant moins une semaine, deux semaines, parce que je me demandais... Je croyais pas, quoi. Je veux dire, il y a un an et demi, j'étais encore en province. Et pour moi, c'était des gens intouchables, quoi. Je pouvais pas. Et quand je suis arrivée, je me demandais vraiment ce qui m'arrivait, quoi, même avec Claude et tout, parce que c'est quelqu'un dont j'entends parler depuis que je suis toute petite, quoi.
Anne Brochet, il y a quoi comme point commun entre vous aujourd'hui et Anne qu'on entendait qui a 19 ans ?
Brochet ?
Brochet aussi.
On a le même nom. Non, je ne savais pas que j'avais avoué déjà mon complexe animalier. Je ne savais pas que je l'avais dit. Je savais que je le vivais, mais je ne savais pas que je l'avais énoncé même à Claude Chabrol. Ça, c'est très très mignon. Après, ça me paraît quelque chose qui n'a pas été d'entendre ma voix. J'ai l'impression que ça n'a pas existé.
Et le fait de faire ces films très jeunes, parce qu'on entend...
Je ne savais pas que j'avais 19 ans quand j'avais fait le film de Chabrol. Je pensais que j'étais... Oui, je ne savais pas que j'étais un enfant. Une enfant.
Parce qu'après quelques années et quelques films, vous êtes partie aux États-Unis.
Oui. J'avais certainement envie d'autre chose. Mais j'étais aussi très, très insouciante. Je n'étais absolument pas raisonnable. Je faisais comme bon me semblait. Et si j'ai envie de partir à New York parce que j'étais amoureuse, ça me semblait une aventure bien plus rock'n'roll que de lire des scénarios. Et puis, en même temps, dans ma tête, ce n'est pas New York qui m'empêcherait de continuer ma carrière.
J'aime les bêtes, j'aime la nature, j'aime les plantes.
Vous n'aimez pas beaucoup les interviews ?
Pas des masses, non.
Vous n'aimez pas qu'il ait les feux sur vous?
Mais c'est pas ça, c'est que je me dis ce qui est important chez un acteur, c'est la façon dont il joue. Oui. Alors, quand on le voit jouer, il me semble que ça devrait suffire.
Mais vous savez qu'on mythifie comédien et comédienne et on a besoin de savoir
pourquoi
comme ça, parce qu'on s'identifie.
On les voit sur la scène et s'ils vous plaisent sur la scène, c'est bien.
Mais on s'identifie à eux, alors on a besoin de savoir quelle est leur vie, si elle correspond.
Et qui vous dit que je vais vous dire quelle est ma vie?
Et oui, ça c'est sûr. On la saura pas.
Non, on ne saura pas.
Vous ne direz que ce que vous avez envie.
Exactement.
De dire.
Moi, je mène une vie bien simple, vous savez, parce que quand on joue un rôle important, mais il faut en tenir compte dans la journée. J'aime bien quand on me regarde quand je suis sur une scène, quand même.
Oui.
Quand je joue, ça,
oui,
voilà.
Il vaut
mais
mieux.
Quand je joue pas, j'aime autant quand même.
Anne Brochet, quand on vous a demandé quelle voix vous aviez envie d'entendre, dans la liste, il y avait Suzanne Flon.
Mm-hmm.
Pourquoi ?
Parce que quand j'avais 19 ans, je crois, j'étais avec une agent qui s'appelle Myriam Bru. Je crois que nous sommes allés voir Suzanne Flon dans une pièce de Lolé Bellon. Pour Suzanne Flon, c'était son modèle d'actrice en tant que carrière. Un de ses modèles, en tout cas. Et donc, je voyais cette dame qui était assez âgée. Je la regardais, je disais, ça serait bien que l'aboutissement de ma vie, ça soit quelque chose de cet ordre-là, de ce que dégageait cette femme, de la façon dont elle jouait, Voilà, donc ça me paraissait, ou ça me paraît toujours dans longtemps, mais je m'en souviens. Et je me souviens de cette voix aussi singulière, mais de surtout son petit, ce que je disais à Abdelham, moi je ne peux pas m'empêcher d'aller dans le monde animal. C'était quelque chose, un petit moineau sur des planches, j'aimais bien.
Dans les autres voix dont vous parliez, vous avez évoqué Fanny Ardant, Robert Hossein, Isabella Gianni, donc que vous avez ensuite remplacée par Anne Brochet,
oui,
sur le poster.
Oui.
Toutes ces voix, tous ces visages vous ont accompagnée dans vos rêves d'actrice?
Absolument. Fanny Ardant, Robert Hossein. Je crois que Robert Hossein, c'était avant, parce que je regardais le mardi soir Angélique Marquise des Anges en famille. Et c'est vrai qu'il avait une voix très troublante. Donc, mon inconscient était déjà chaviré. Et ensuite, Fanny Ardant, c'est mon envie d'être actrice dans la télévision française. Avec les Dames de la Côte, que nous avons en commun avec Abdellah, c'est-à-dire que c'est une série télévisée d'une fougue, d'une poésie, d'un sexy incroyable. Et Fanny Ardant était, donc je me projetais intensément sur le personnage de Fanny Ardant qui vivait cette vie d'amour déchirée et avec cette voix incroyable qui est la sienne. Voilà. Donc oui, Fanny Ardant dans Les Dames de la Côte, c'était... je veux être actrice.
Et est-ce que dans le désir de vivre d'autres vies que la sienne, il y avait déjà cette idée de peut-être aussi je vais endosser d'autres noms, justement. Je vais m'appeler autrement le temps d'un film ou d'une pièce.
C'est possible. En fait, à un moment donné, j'ai dit, ouais, je vais m'appeler Anne Florilet. C'est nul. Mais ça, c'était quand j'étais en première. Je voyais un garçon et on faisait parce que je lui avais dit que je voulais être actrice et je crois que j'étais au conservatoire d'Amiens. Et donc, on faisait des listes de comment je vais m'appeler. Et c'est ce que je raconte dans Brochet comme le poisson. C'est que, en fait, Claude Chabrol, il m'a proposé, j'ai si vite travaillé que j'ai pas eu le temps de trouver un nom. Donc en fait, je voulais pas être actrice pour après avoir plein de noms différents. Je voulais absolument aussi en profiter. Profiter d'être actrice pour changer de nom. Mais j'ai pas eu le temps.
Vous dites, je me suis développée avec cette idée de l'animal, donc du brochet, revêche, fuyant, carnassier, bourré d'arêtes et qui se mange aussi en quenelle.
Oui.
Abdellah Taïa, est-ce que vous pensez que Anne Brochet a un caractère de brochet?
Anne Brochet, que je connais depuis 2003, a une détermination inébranlable. En cela, je pense que c'est pour ça qu'on est amis. Et elle a l'air comme ça, parfois timide, peut-être hésitante, mais c'est peut-être un masque, c'est faux, mais c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui entreprend des choses. Donc c'est peut-être son côté brochet.
Le brochet, il reste entre deux eaux. On ne le voit pas. Il n'est jamais clairement visible dans la rivière.
Oui, mais en même temps, il est là.
Il est là, oui.
Est-ce que ce qui vous rapproche aussi, ce n'est pas l'amour de l'écriture? Parce que là, le nom, c'est le début de... Pas forcément de l'écriture, mais de la création, du roman, de l'imaginaire, en fait. Chaque chose de la vie est le début potentiel de l'écriture.
Tout.
Moi, pas forcément l'écriture avec Anne. Moi, plutôt, c'est les premières images que j'ai vues d'elle quand j'étais encore au Maroc, dans les années 80. J'achetais le magazine Première et j'économisais de l'argent pour pouvoir acheter le magazine. Et je me souviens qu'il y avait un reportage sur un film que tu tournais en 88 ou 89, Tolérance. Mmh. Et je me souviens de toi avec beaucoup de maquillage et des coupes de cheveux incroyables. Et dans la foulée, un film que tu as joué en Inde a été projeté à Rabat. Les Nuits Bengali, c'est ça ?
Les Nuits Bengali.
De Nicolas Klotz, mm-hmm, avec Hugh Grant. Et je me rappelle que j'avais fait une fugue. Toute une nuit, je suis allé de Salé où j'habitais jusqu'à Rabat pour pouvoir voir ce film. Donc pour moi, c'est ça ce qui me lie à Anne. C'est pas ce que moi, en tant que, on va dire, artiste ou écrivain, cherchant un autre artiste, une autre artiste, ou une autre écrivain avec qui communiquer dans l'art. C'est pas ce qui m'intéresse chez Anne.
C'est celle qui vous a fait
fuguer. La personne. Oui. C'est celle qui m'a fait fuguer pour aller voir ce film de nuit bengali. Voilà. Voilà, j'ai passé toute une nuit à Rabat, sans le dire à mes parents, qui avaient alerté la police entre-temps, à cause de toi.
Et vous avez dit au commissariat, c'est de la faute d'Anne Brochet. Attention, en fait, si vous allez au Maroc, peut-être que...
Non, le lendemain, je suis rentré à pied de Rabat Salé, ce qui a pris une éternité. Et ils étaient tellement contents que je ne sois pas mort, qu'ils ne m'ont rien fait. Et puis, je ne leur ai jamais dit que c'était à cause d'Anne Brochet.
Soit il se mettrait dans le virage,
oui. Ici.
Ou alors, vu l'arrivée du courant, il se mettrait juste derrière les piquets.
Voilà. Et pourquoi ?
En attente d'un poisson blanc
comme
qui passe.
Il est masqué par les piquets, et puis dans l'ombre du virage.
Ah, là, voilà. Voilà. C'est un poisson qui vit planqué.
Voilà, oui, sous les berges, il est, sous les branches d'arbres.
Sachant qu'il va faire son attaque sur une très courte distance.
Voilà.
En fait, le brochet est très fainéant. Voilà. Il va partir très vite sur une courte distance, c'est pour ça qu'il est toujours en poste, quoi. À faire le moins d'efforts possible. Voilà. Sur 2-3 mètres, il va atteindre 50 km/h.
Voilà. C'est un sprinter ?
Voilà. C'est un sprinter, voilà. C'est une torpille.
On l'appelle la torpille, voilà.
La torpille. Le brochet peut changer de robe. Si vous le changez d'une rivière, il va changer ça. Il va se camoufler. Il prend l'apparence du sol qu'il a.
Il peut être en couleur sable aussi.
Voilà, oui. Beige clair.
Couleur feuille.
Ouais. Oui. Ils sont très beaux, les brochets. Hein. Très beaux. Hein. Moi, pour moi, c'est le plus beau des poissons.
Alors, le brochet, tu sais que c'est le roi de la rivière ?
C'est le requin d'eau douce. On m'a surnommé parfois le requin d'eau douce. Bah, disons, on se fait tous bizuter quand on a un nom d'animal. Hein. Requin, c'est flatteur. Eau douce, un peu moins. Ça fait un petit peu capitaine de pédalo.
Moi, j'ai rencontré des pêcheurs de brochet. Ils en parlent pas comme ça.
Du brochet ?
Ah bah oui. C'est des fanatiques. Pour eux, c'est... C'est un prince.
C'est le côté sportif qui les intéresse.
Non.
Plus que le...
Bah déjà, ils aiment la silhouette.
Plus que l'animal par lui-même.
Si, ils aiment la silhouette.
En général, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Celui qui attrape un brochet, il le relâche.
Ouais. Bah parce que c'est pas mangeable.
Ah si, c'est bon. Maman l'a préparé. Hein.
Dès que t'as dit oui à papa, t'es devenu un brochet.
Ouais.
C'était un extrait du film Brochet comme le poisson. Alors, il y avait Bernard et Philippe, les pêcheurs de brochet, et puis vos parents ensuite. Et vous l'appelez, ce cousin silencieux, l'origine de tous mes maux. À quel moment vous êtes dit, le brochet me menace ?
Eh bien, quand nous étions dans la maison de la deuxième chambre, la petite avec la... quand je veux chanter avec le maire, au-dessus, il y avait un rez-de-chaussée où on enlevait nos chaussures et après on passait comme ça, craintivement, une porte qui nous emmenait au premier étage où il y avait le salon et la cuisine. Et au-dessus de cette porte, mon père avait osé mettre une tête de brochet. Donc en fait, il savait très bien, il s'était lui-même totalement associé au brochet. Mais en tout cas, il arborait fièrement la figure du brochet comme emblème familial. Et moi, je détestais ça. Il était tout sec. Il avait une gueule atroce et il avait plein de petites dents pointues. Il était horrible. Et c'était très gênant d'être appelé sans cesse à, c'est-à-dire qu'à l'école, on ne faisait que m'appeler brochet. Et après, je rentrais à la maison. Je partais de chez moi le matin pour aller à l'école avec la bénédiction de ce poisson sec. C'était très embêtant.
Et en apprivoisant le brochet au fil des années, qu'est-ce que vous avez pris de positif ? Parce que c'est assez drôle dans le documentaire, vous allez voir beaucoup d'autres personnes qui portent des noms d'animaux. Mmh. Et il y a entre autres Monsieur le Renard qui a toute une théorie sur sa façon de porter son nom et qui d'ailleurs discute avec Monsieur Pigeon. Mmh. Et alors lui, il lui dit finalement j'ai essayé de prendre le côté positif de l'animal.
Ouais. Le côté malin. Oui, parce qu'il était très gêné, Monsieur Renard, d'avoir... Parce qu'il avait entendu que le renard, c'était voleur. Alors ça le gênait beaucoup. Il n'aimait pas beaucoup cette réputation-là. Mais malin, oui, il était content. Non, c'était formidable comment il s'était lui aussi créer un monde autour de son nom. C'était magnifique. C'était tellement émouvant. Allô, bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes Jean-Marie Tekel?
Oui, c'est bien moi, oui.
Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je m'appelle Anne Brochet, Brochet comme le poisson. Et je cherche à rentrer en contact avec d'autres personnes au patronyme animalier.
Non, je suis désolée, mais je ne suis pas du tout intéressée.
Mais, non, mais madame Tortue, je sais bien que vous n'êtes pas une tortue. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer et parler avec vous, pour savoir ce que ça faisait d'être nommée tortue alors qu'on ne s'en sentait pas une.
Je ne suis pas du tout ce genre de plaisanterie. Merci, au revoir.
Allô, madame Canard Volant, c'est Anne Brochet à l'appareil.
J'ai pas le temps.
Ah, au revoir, madame Canard Volant. 261 cochons en France. Cochon Benoît, cochon Claude, cochon Elodie, cochon Camille.
Mais ce que j'aime pas, c'est quand ils disent « Allô, madame Lapin ?» Je dis « Oui. » « Pan, pan, vous êtes morte. » Alors ça, c'est le « Vous êtes morte » qui me plaît pas. Madame Lapin, bon, quand on me dit « Vous êtes morte », à chaque fois, « Pan, pan, vous êtes morte », bon, ça va une fois, deux fois, mais... Et au moment de l'ouverture de la chasse, au début, bon, on trouvait ça marrant. Et maintenant, ça finit par être pesant, parce que ça peut être 2, 3 heures du matin, ou minuit. Alors, je laisse sonner, et puis je dis à ma fille, bon, s'il y a quelque chose, tu insistes, et puis, comme on a un répondeur, tu dis que c'est toi. Enfin, ça finit par être un peu pénible, quand même. Parce que là, c'est de plus en plus, hein, je sais pas si t'as remarqué.
Et plus fréquent, actuellement, oui. On a beaucoup plus de chasseurs qui ont dû arriver dans les Landes.
Della Taïa, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de votre nom, de ce à quoi ça vous raccrochait?
Et comment? Bon, d'abord, je trouve que ce qui est de plus beau en moi, j'ai toujours trouvé qu'en arabe, ça sonnait très très bien, Abdallah Taïa, et ça signifie esclave de Dieu obéissant. Donc vous voyez, il fallait le prendre avec beaucoup d'humour pour pouvoir avancer dans la vie et pouvoir donner des coups aux autres avant qu'ils vous laissent un peu vivre et respirer. Et donc, du coup, je me rappelle très bien qu'un jour, je me suis dit, bon, puisqu'il n'y avait rien de beau en moi physiquement, et que personne, en tout cas, ne me remarquait ou pour mes qualités physiques, je n'étais ni Gérard Philippe, ni les amants d'Isabella Gianni dans les films. Je n'étais pas un Daniel Day-Lewis. Donc, j'ai décidé que ça allait être la plus belle chaise de moi, Abdella Taïa. Ça sonne bien, je trouve.
Ça sonne encore mieux quand c'est vous qui le prononcez. Hein?
J'ai eu beaucoup, beaucoup d'années pour pratiquer. Comment bien le faire?
Si tu t'es entraîné à dire Abdella Taïa?
Ah, bien sûr, mon prénom en arabe. Ah oui, oui, oui.
Vous pouvez faire des massages de mâchoire quand même.
Oui, on a déjà commencé, je crois.
Abdallah.
Voilà. Dans votre premier roman, Anne Brochet, qui s'appelle Si petite devant ta face, il y a une petite fille, mais qui est un peu plus jeune, qui a 6 ans. Pourquoi vous êtes partie du point de vue de cette petite fille de 6 ans?
J'avais oublié qu'elle avait 6 ans. 6 ans? Ah ben je ne sais pas. Ah ben parce qu'elle allait avoir 7 ans. J'imagine. On pouvait pas avoir 7 ans et en plus aimer le chiffre 7, donc il fallait qu'elle soit avant.
Elle est fascinée par le chiffre 7.
Mm-hmm. Moi j'étais pareil. Hein.
Hantée.
Oui, habitée par le chiffre 7.
Et il y avait quoi à l'intérieur du chiffre 7?
Je pense qu'il y avait une force rassurante que je n'avais pas trouvée autour de moi. C'était une force mystique. Donc je l'associais certainement aussi à Dieu, mais comme Dieu avait une barbe, je me suis dit qu'un chiffre, c'est une abstraction qui était beaucoup plus enrichissante pour moi.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait?
Alors... Dans une inspiration venue d'on ne sait où, la seule chose qui put me protéger après mes parents, c'était 7. J'aurais pu penser à 6, 2 ou même 9, mais 6 était trop nonchalant, bien que très fiable. 2, trop vulnérable, avec des jambes trop petites. Il aurait eu plus peur que moi. Quant à 9, il était trop athlétique, trop mûr même pour accepter ma demande. Il aurait compati, il aurait essayé de me raisonner. Mais je n'avais plus le temps. Il n'y avait que le pragmatisme de Seth, son intelligence mêlée à je ne sais quoi d'inattendu qui m'inspirèrent une confiance totale.
Et le fait qu'il ait répondu à mon appel, comme s'il avait toujours été prêt, comme s'il avait toujours su que j'aurais un jour besoin de lui, me soulagea de presque tout mon affolement. Voici comment se déroule la collaboration de Seth et de moi-même. Ça a commencé le lendemain soir de cette nuit désastreuse. A priori, rien ne s'est passé. J'ai la même chemise de nuit, je me brosse les dents de la même façon, sauf qu'à la fin du rinçage, j'agite l'eau mousseuse 7 fois dans ma bouche et je crache 7 fois aussi, difficilement. Je fais ça d'instinct, sans préméditation, et Seth s'exécute sans étonnement, ce qui m'encourage et même me donne une totale liberté d'expression avec lui, une fois la porte de ma chambre fermée. D'abord, je m'agenouille près de mon lit, je prends une forte inspiration et j'expire en regardant sous le lit et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis je m'allonge sur le lit.
Puisqu'on parle d'animaux, Miss Sparrow, ça vient de Miss Sparrow, qui veut dire Mademoiselle Moineau. C'est donc vers une autre jungle que l'on part, la jungle contemporaine de Miss Sparrow. C'est le titre de son dernier album. C'est surtout une voix qui va et qui vient, qui fait des tours, qui boucle et qui cherche, une voix qui siffle et qui recrée une symphonie naturelle. C'est comme si on entrait pieds nus, tranquillement, dans un nouveau jardin.
Bonsoir. Je suis Miss Sparrow et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Et le premier morceau, c'est
Jungle contemporaine.
Des châteaux de glace perse, nuages et ciel, un oiseau de chasse passe, brise ses ailes. Contemporain. joyaux de la folie humaine, fardeau des hommes. De la folie humaine, tombeau des hommes.
Je pensais à une maison que j'ai quittée à l'âge de 6 ans et dans laquelle je ne suis jamais revenu dans l'intervalle. Lorsqu'il m'arrive de rêver de maison, il me semble qu'à des dizaines d'années de distance, c'est encore dans celle-ci que je reviens de préférence la nuit. Elle était bâtie dans une pierre claire. Elle était couverte de tuiles romaines, qui étaient des choses à mes yeux merveilleuses, puisque le département dont je suis originaire, la Corrèze, était un pays de grès, gris, de granit noir et d'ardoise. Et puis qu'à l'intérieur de la maison, il y avait également, mais d'une façon concentrée, les senteurs des choses qu'on avait traversées pour venir, c'est-à-dire l'odeur à la fois des pommes, des prunes, du tabac. Et puis c'était enfin un endroit où je retrouvais des gens que je n'ai vus que là. Et puis il y a une troisième chose, outre les choses, l'odeur des choses, la couleur des choses, il y a le fait que je me sentais chez moi. C'est-à-dire qu'on me regardait non pas tant comme si j'avais été quelqu'un qui venait de débarquer, qui arrivait des limbes, mais c'est quelque chose dont il me semble avoir eu le sentiment à l'âge de 3 ou 4 ans, comme si j'avais déjà vécu, comme si j'avais déjà été là, que j'ai grandi, vieilli, et puis disparu, et que je revienne. Et c'est quelque chose qui ne m'est venu en conscience qu'à des dizaines d'années de là, beaucoup plus tard, dans cette maison, à cet endroit, à cet âge où l'on commence, où l'on a à peine le sentiment de son existence. Et il a fallu que des dizaines d'années s'écoulent avant que je ne m'avise à la lumière de la réflexion, de la conscience, que c'était cela que j'ai eu, le sentiment et de mon existence et de sa dépendance vis-à-vis d'un pays, d'une maison, d'un côté, pratiquement à l'instant où j'ai accédé au sentiment de moi-même, si confus qu'il pût être, à l'âge où on y accède, c'est-à-dire vers 3, 4 ou 5 ans plus tard.
C'était la voix de l'écrivain Pierre Bergougnoux qui parlait de sa maison d'enfance. Dans le cinquième et dernier livre qui s'appelle Le grain amer, Anne Brochet. Alors c'est en deux parties. Dans la première partie, vous parlez beaucoup de cette maison d'enfance qu'on doit vendre quand vous avez 14 ans et de ce sentiment d'exil qui commence alors à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on perd avec la maison, avec la vente de cette maison?
Qu'est-ce que j'ai perdu moi? Oh, c'était vraiment... c'est très...
Parce que le sentiment d'exil, c'est fort comme
mot. Oui,
comme
c'est vrai. C'est vrai. C'est, la perte de l'enfance. Donc effectivement, maintenant, je ne me sens pas exilée de l'enfance, de mon enfance, mais pendant très longtemps, oui. Je pensais vraiment que c'était ce qu'il y avait de mieux.
Abdelataïa, c'est intéressant parce qu'il y a l'exil dans l'espace, l'exil géographique, et puis l'exil justement dans le temps, l'exil avec sa propre enfance. Qu'est-ce qui est le plus fort pour vous, par exemple, comme exil, dans l'espace ou dans le temps?
Je dirais l'exil au fond de soi, alors qu'on est à côté des gens qui vous aiment, mais en même temps qui ne vous aiment pas comme vous le souhaiteriez, qui vous aiment. J'espère que c'est clair. C'est très difficile d'être à côté des gens du monde, le vôtre monde, et en même temps ce même monde ne vous accepte pas tel que vous êtes. Moi, je suis homosexuel et j'ai toujours aimé mes sœurs, j'ai toujours aimé mon père, ma mère. Mais à un moment donné, le monde a fait que ces mêmes personnes ont dit des mots sur vous, alors que je leur appartiens, qui ont fait que j'ai commencé mon exil déjà à côté d'eux. Ça, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un. C'est très très dur d'être à côté de quelqu'un qu'on aime et qu'en même temps on accepte que cette personne ne vous comprenne pas. Mais non seulement il n'y a pas la compréhension, mais il y a aussi le rejet de quelque chose qui est totalement vous. Ça, c'est très dur. C'est peut-être là où commence l'art, malheureusement.
Moi, je me sentais exilée à moi-même. Donc, j'ai mis beaucoup d'années. Et certainement, en même temps, grâce au jeu, grâce au fait d'être actrice, grâce aux gens que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, grâce à mes enfants, je suis revenue à moi-même, à peu près.
Mais ce qui est beau, c'est que vous décrivez comme des lignes parallèles. En fait, les choses ont beau soit mourir, soit disparaître, elles continuent d'exister pour vous. Donc finalement, elles se superposent à la vie présente, réelle, et elles existent.
Bien sûr, parce que je pense que c'est la vérité.
Elle a raison, non ? On a beau être sûr du présent où l'on vit, mais qu'est-ce qui nous dit que ce présent est si sûr que ça, de toute façon ? Et le temps, le passé, le futur, tout ça, qu'est-ce que ça signifie à un certain moment ?
Donc rien ne disparaît, de façon définitive ?
Non, non.
En tout cas, Anne a cette grande qualité de vous amener avec elle dans ce rapport au temps.
C'est toi qui m'as amené dans ce rapport au temps aussi.
C'est-à-dire
avec le film qu'on avait vu avec Gary Cooper, c'est tellement étrange.
Ces deux enfants qui s'aimaient, oui. Une fille et un garçon, et à un moment on les sépare, et à un moment donné ils arrivent à se retrouver mais dans le rêve. Ils arrivent à se connecter dans le rêve. Et tout d'un coup on accepte totalement le film et la structure du monde, que ce n'est pas seulement le présent, ce n'est pas possible. Il faut vraiment croire, être limité d'esprit pour ne croire qu'au présent.
Est-ce qu'on peut lire un extrait du livre Le Grain Amer, parce que c'est lié à cette idée-là ?
Si je franchis le porche, si je pénètre le voile brumeux d'un petit matin comme ceux d'autrefois, si je foule la cour pavée, devinant à peine les murs de crépi jaune ocre du bâtiment, si je longe le trottoir de la maison de briques rouges, si je passe la véranda, si je pousse la porte de la cuisine et si, malgré cela, je ne croise personne du monde que j'ai aimé, je ne le supporterai pas. Je vis parce que mon imagination croit que les scènes sont encore possibles. J'habite un espace mental où les temps passés, présents et futurs ne font qu'un. Mon esprit n'a jamais assimilé l'idée de la perte. Vivre, c'est apprendre à perdre, dit-on. Alors je ne sais pas vivre. Je pose à la notion de réalité une brume permanente qui me permet paradoxalement d'avancer dans ma vie. Je sais bien que mes grands-parents sont morts, mais je sais aussi l'infime et cruciale résistance qui s'opère en moi dès que j'évoque leur disparition. John, l'homme fondateur de ma vie de femme, est mort il y a quelques années. Mais s'il me téléphonait pour annoncer sa venue, je ne serais pas totalement étonné. J'aurais peur, mais ça ne serait pas par crainte de son fantôme. Je serais encore perturbé et contrarié par l'excitation que j'éprouvais quand il m'appelait pour me dire qu'il arrivait bientôt. Mon corps était immédiatement envahi par une émotion entre désir et rejet, entre la conviction profonde de mon amour pour lui et un doute vertigineux. De la même manière, si je revois ma grand-mère, je lui demanderai après quelques secondes de considération si elle veut bien me faire des pommes de terre rissolées. Aujourd'hui, ma vie présente, que je nommerai ma réalité fictionnelle, c'est de regarder cette maison adorée qui fut la mienne, mais du côté de chez toi, Bruno.
Ce Bruno que vous allez retrouver, Anne Brochet, c'est le voisin qui était dans la maison à côté de celle de vos grands-parents. Mais il y avait une sorte de veto sur cette maison, cette famille. C'était pas possible de communiquer, ou en tout cas, c'est comme si ça n'existait pas, finalement.
Oui, je suis née avec la...
Parce qu'il y avait un mur.
C'était une maison... c'était une famille fâchée. Moi, je suis née avec la fâcherie, qui datait de longtemps avant. Mais en même temps, personne n'en parlait, donc je me suis... inventé beaucoup de choses. Ce que je me suis inventé à l'époque, je pense que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui.
Vous vous inventiez quoi ?
Parce que c'était des gens de Paris, donc moi j'étais à Amiens, mes grands-parents ils étaient entre les deux, quoi, entre Amiens et Paris. Donc les gens ils venaient le week-end, une famille qui venait le week-end à Paris, c'est ce que je m'imaginais. Il y avait toujours des voitures, les gens se réunissaient, ils faisaient toujours des fêtes. Ça, c'est ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ils faisaient toujours des fêtes, c'était des artistes, c'était des intellectuels, c'était des philosophes, enfin c'était tout un monde auquel je n'avais pas accès. Un mélange comme ça d'intellectuels et artistes, en plus parisiens, c'était l'idéal.
Et pourquoi des années plus tard, vous vous dites... je vais aller à la recherche de l'écriture, de l'histoire de ce mur.
Je crois que c'était après Brochet comme le poisson. J'étais dans une démarche de... J'avais envie de faire un documentaire, encore. Et j'avais envie de faire, de raconter. Je me suis... comment dire ? C'était... J'ai fait du vélo. Et j'ai pris la petite impasse pour aller donc voir le moulin. Et puis voilà, de façon un peu, je ne sais pas, créative, un peu vaniteuse, j'en sais rien. Je me suis dit, oh, ça serait bien de faire un sujet sur les maisons fantômes. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, juste avant d'aller voir le moulin, je passais devant la maison de Bruno. Je me suis dit, il faudrait quand même qu'un jour, j'aille lui dire bonjour à cet homme à qui je n'ai jamais adressé la parole. Et voilà, donc je lui ai écrit pour savoir si on pouvait se rencontrer voilà. C'est venu comme ça, c'est venu. Et puis finalement, j'ai pas fait de documentaire. J'étais voir quelqu'un qui dit, et je lui dis voilà, j'aimerais bien faire quelque chose autour de ce village, autour de nos témoignages à moi et à Bruno, comment nos réalités se percutent. Avec ces maisons un peu décaties qui ont été avant beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus vivantes. Qu'est-ce que c'est que ce temps qui passe sur nous ? Et puis on m'a dit, fais un livre. Donc j'ai dit, je vais faire un livre.
Parce que c'est l'histoire de ces deux maisons, mais aussi surtout de deux grands-pères, Georges et René. Donc René, c'est votre grand-père, et Georges, c'est le grand-père de Bruno, qui ont eu deux histoires et trajectoires très différentes pendant la guerre. Georges, il était juif, mais ça, c'est une des seules choses que vous savez sur cette famille. Vous savez quand même... ça, vous le saviez, enfant, non ? Qu'ils étaient parisiens et qu'ils étaient juifs, ou vous l'avez su plus tard, ou c'était juste, voilà, comme ça...
Oui, je pense que je l'ai su, oui. Mais c'était parisien, oh là là ! Et juif, c'était aussi, oh là là, ça devait être quelque chose de... c'était très mystérieux.
Georges a dû partir et René est devenu... alors Georges était maire du village.
Oui, mais ça je l'ai appris par Bruno, je savais rien du tout. C'est lui qui m'a expliqué, qui m'a raconté tout. Parce que je lui ai dit, mais pourquoi ils étaient fâchés ? Pourquoi jamais on disait le nom de votre famille ? Enfin, on le disait, mais comme ça... Et donc c'est lui qui m'a raconté les choses de son point de vue. Après, j'ai interrogé ma tante.
Parce que René, votre grand-père, était devenu le maire de substitution. Pendant les années de guerre.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc considéré au retour de Georges...
comme un traître. Comme quelqu'un qui lui avait pris sa place. Voilà, c'est des convictions qui se sont... alors qu'ils étaient amis, je pense que chacun avait des convictions et des blessures de guerre qui n'ont pas réussi à se retrouver. Donc, bien évidemment, un manque de communication à la base. Chacun restait dans sa fierté, dans sa blessure d'orgueil aussi, ou peut-être aussi plus profonde, pas uniquement de l'orgueil. Mais bon, là, moi, je ne veux pas parler pour eux. Après, je parle que de comment je me suis construite autour de ce...
Et justement,
de ce fantasme, en tout cas.
Le judaïsme, il entre dans votre vie par différents moyens, par les hommes que vous rencontrez, par votre propre curiosité à aller...
Je pense qu'il commence avec la maison, la maison voisine. Après, il y a comme ça une émotion qui s'amplifie avec ce que je vois à la télévision, les dossiers de l'écran, les films, les documentaires, ce que j'apprends à l'école, et voilà. Et puis après, effectivement, j'ai l'impression que ma vie d'actrice et mon émotion vive pour le judaïsme ont avancé ensemble.
Dans la deuxième partie du roman, c'est une partie fictionnelle.
Et là, il y a un complètement fictionnel.
Personnage qui s'appelle Sylvia, qui va à Jérusalem et qui veut se convertir. Et qui, là, c'est une autre histoire de mur, mais on est près du mur des Lamentations. Ça, c'est une envie qui a existé dans votre vie ou pas ?
Oui, je suis allée voir mon ami d'enfance qui habite à Jérusalem, et donc c'était peut-être il y a 8 ans ou un peu plus. Et non, 10 ans, on va dire, mais pas plus. Et j'étais sur le mur des Lamentations, et alors j'ai trouvé que c'était vraiment le plus grand, le plus beau cinéma du monde. Parce qu'on pouvait observer tous les gens. C'était incroyable pour moi, et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'être rattrapée par la fiction et de penser très vite à Yentl. Enfin, en tout cas, je connaissais d'abord le film, puis après j'ai lu la nouvelle.
Le film avec Barbara Streisand.
Barbara Streisand, cette femme qui s'habille en homme, en juif orthodoxe. Cette femme juive qui s'habille en homme juif orthodoxe pour pouvoir acquérir et entrer dans le monde mystérieux des hommes et de leurs connaissances en matière talmudique. Et donc j'ai tout de suite imaginé une femme se déguisant en homme, pas forcément moi pour accéder aux connaissances, mais juste pour être avec les hommes, sans qu'ils le sachent. Donc ça, c'était moi. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai écrit un livre à la place.
Est-ce que c'est plus aisé d'être un juif qu'une juive, vous pensez ?
Non, ça fait partie de mon d'une sorte de fantasme. C'était on n'était pas une juive, on était un juif. Mais comme l'homme, c'est comme moi, je suis une femme et l'homme c'est l'autre. Donc l'autre c'était le juif, c'était pas la juive. Donc c'est de façon très très raccourcie comment j'ai élaboré en tout cas mon sujet. Oui, c'est-à-dire que le summum du summum, c'était être un homme.
Vous avez quand même choisi la solitude, disons l'éloignement, à une quarantaine de kilomètres de Paris, c'est-à-dire que vous pouvez bondir dès lors que vous le souhaitez, mais quand même, seul, ayant épousé tout, sauf un homme.
Oui.
Sauf des amis, peut-être.
J'ai pas ce talent-là. Si, des amis, oui. Qu'est-ce que c'est, en fait, la solitude ? C'est une grande part d'égocentrisme que j'ai en moi, certainement. Aussi une grande faiblesse, ne pas savoir vivre à deux, très probablement. Et une grande force aussi. Je pense que c'est une très grande force, parce que vous pouvez recharger vos accus. Vous n'avez pas à tricher devant l'autre. Parce que moi, je trouve que c'est important de... Ce qui est terrible dans le couple, c'est de ne pas pouvoir se renouveler. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir la richesse de me renouveler pour séduire l'autre toute une vie. Je ne suis pas sûre de ça. Je suis même sûre que je ne suis pas capable de ça. Or, si on n'a pas ça, l'amour, moi, je ne sais vivre que les choses passionnelles. Et je n'ai pas le talent de vivre une chose...
Quitte un espace court.
Non, quitte un espace court, se brûler aux choses. Je n'ai pas le talent de vivre l'amour, le toujours, que je trouve aussi une malhonnêteté quelque part.
Hein. Mais donc la solitude, c'est pour vous plus une force qu'une faiblesse, parce que vous ne la regrettez pas.
C'est les deux. Non, je ne la regrette pas. Je ne serais pas mal élevée...
Vous l'avez choisi.
Je l'ai choisi, donc je ne serais pas mal élevée au point de dire « Oh oui, vous savez, la solitude, quelquefois, c'est difficile. » Ah non. Ah non.
Non.
Ah non, non, non.
Thank you.
Vous étiez d'accord avec Barbara, Abdelataya, Anne Brochet?
En tout cas, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir à chaque fois une nouvelle peau, toujours pouvoir renouveler les mots, le goût des mots pour l'autre. Et ce qui est pire, c'est quand on est en couple, c'est devoir expliquer, réexpliquer des choses de nous-mêmes que nous ne comprenons pas tant que ça de nous-mêmes. Alors on a le choix, soit le courage fuyant, ou alors on reste dans le malentendu jusqu'à quand, je ne sais pas. En tout cas, c'est très juste ce qu'elle disait. Très très juste.
Anne Brochet, je pensais au trajet d'une amoureuse éconduite, qui est aussi un livre un peu différent parce qu'il y a des photographies. C'est le trajet en fait d'une histoire d'amour, du début jusqu'à la fin. Et puis, vous retraversez tous les lieux. Mais ça peut être une porte que vous avez poussée, une table de café où vous êtes assis, du début jusqu'à la fin. C'était aussi le récit d'une solitude.
Mais c'était plus une sorte d'enquête, de me focaliser sur les lieux et à quoi ces lieux étaient associés physiquement, comme émotion physique. C'est ça qui m'intéressait.
C'est toujours cette idée de l'épaisseur du temps, finalement.
Ouais, le temps et le lieu. Ce que ça fait comme écho. Je sais que je me suis beaucoup amusée, alors que c'était une histoire vraiment tellement triste. Ah, je vais faire les photos à Concorde quand il m'a dit ça. Ah, je vais aller là pour faire les photos de quand il m'a dit ça. Et c'était vraiment un jeu excitant, alors que j'étais très, très amoureuse délaissée, abandonnée, quoi. Et donc j'ai des souvenirs comme ça, je mets les photos, j'écris les textes et je joue. Je joue, c'est horrible. Ça m'amuse. Voilà.
Est-ce que chez vous c'est Los Angeles maintenant ?
Non. Chez moi, je suis comme Barbara, je me suis mise à 40 km de Paris. J'ai fait pareil qu'elle. Après, je parlerai pas aussi bien de ce dont elle parle ou de ce dont Abdella parle. Je suis toujours aussi confuse dans ma bulle que je me suis créée. Mais oui, effectivement, je vais à Los Angeles de temps en temps.
Et quel animal vous accompagne maintenant aujourd'hui ?
Eh bien, un bulldog. Oui. Un bulldog plus d'autres sortes d'animaux.
Comment il s'appelle le bulldog ? Comment elle s'appelle ?
Maggie Chung.
Maggie Chung.
Ouais.
Donc Maggie Chung vous accompagne partout ?
Ouais, non, en ce moment elle est à Los Angeles parce qu'elle ne peut pas non plus faire trop d'allers-retours. Hein, elle a moi. Je la laisse tranquille.
Avant la nuit, je dis merci à Inès De Bruyne, à Lucie Spindler, à Vincent Abouchard pour la réalisation. Merci à la technique, à Pascal Bénard et Nadège Antonini. Et merci à Abdelataya de nous avoir accompagnés. Came sighting me. Yes, sir.
yesterday.